amoureux du livre, bonjour. Dans le cadre de nos échanges avec l'association Les Amis du Tapuscrit, Arrêt aux Pages vous emmène aujourd'hui à la découverte de deux auteurs montpelliéraines. Véronique Gaglione. Véronique, vous êtes née en 1967 en Normandie. Vous êtes journaliste de presse écrite, mais vous êtes surtout une enfant de la télé. Après avoir reçu le prix Jean d'Arcy en 1989, vous intégrez la rédaction d'Antenne 2. Et depuis 1996, vous sillonnez le Languedoc-Roussillon comme correspondante pour France 2. Nous vous recevons aujourd'hui sur FM+, pour votre premier roman, L'Éponge, paru aux éditions Les Auteurs d'aujourd'hui. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Pascal Battistelli, vous êtes né en 1974 à Ajaccio. Vous écrivez vos premiers poèmes à l'âge de 10 ans. Et après un bac théâtre-philosophie, vous vous orientez vers l'animation sans abandonner l'écriture. Actuellement, vous travaillez à la Panacée, le centre de culture contemporaine de la ville de Montpellier. Nous vous recevons aujourd'hui sur FM+, pour votre roman « Rêve arythmique » paru aux éditions Tapuscrit. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Véronique. Véronique, donc L'Éponge, qui est paru aux éditions Auteurs d'aujourd'hui, vous l'avez écrit en 2016.
Je l'ai écrit bien plus tôt, en fait.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? Quel est ce besoin d'écriture? Quel rapport vous avez avec l'écriture?
En fait, je ne suis pas vraiment une journaliste de presse écrite, mais plutôt une journaliste de la télé, hein, vraiment. Mais une enfant de l'écrit, puisque j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé les mots et j'ai toujours pensé que c'était la meilleure façon de faire sortir les sentiments et de les partager. Et j'ai voulu écrire depuis toujours et j'ai écrit L'Éponge en fait au moment où j'étais enceinte de ma fille, donc il y a plus de 20 ans. Et c'est un roman qui est plus dont j'ai accouché en même temps que mon second enfant en fait, hein. Et j'y ai mis un peu tout le surplus d'émotions que j'avais à l'époque certainement avec cette grossesse et tout ce qui se passait dans ma vie personnelle. J'ai voulu créer un personnage un peu particulier dont on reparlera certainement tout à l'heure.
Bien sûr.
Les mots, pour moi, c'est vraiment une façon sans égale de partager avec les autres, d'entrer en contact de manière intime. Les mots, on en joue, on les place, on les déplace. C'est des petits cailloux dans la chaussure qui font mal, qui gênent, qui en même temps font beaucoup de bien quand on arrive à bien les juxtaposer. C'est presque un jeu de construction, je trouve, l'écriture.
Ça a été une nécessité à ce moment-là dans votre vie d'écrire, vraiment?
Ça a été une nécessité, oui, un besoin, un plaisir surtout, un immense plaisir. Un immense plaisir de se créer un monde qui au départ n'est que pour soi, qu'on espère évidemment partager un jour avec les autres. Et tous les jours, on retrouve ces personnages, tous les jours, on se dit, mais alors, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire d'eux? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi aussi?
Dans le mûrissement, ça a mis longtemps, et en définitive, entre le temps de l'écriture et le temps de l'édition, ça a été assez long, visiblement.
Oui, en fait, le roman était écrit, il attendait, je pense, dans des cartons. De temps en temps, au gré de la vie, au gré du temps, je ressortais mon manuscrit, je polissais un peu les mots, je les changeais, je modifiais des choses, je mûrissais en même temps que lui. Et c'est drôle comme ce manuscrit m'a suivi pendant 20 ans, jusqu'au moment où ma vie l'a encore après un tournant, avec un divorce, avec d'autres, avec des enfants grands, du coup, puisque ma fille avait plus de 20 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressorti ce manuscrit que mon nouveau compagnon m'a aidé à le mettre en valeur, et c'est là qu'il a rencontré un public, en fait.
Ça a dû être un drôle de regard de relire, enfin de retravailler sur un roman 20 ans après l'écriture.
Oui, hein, tout à fait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on change pas tant que ça. Et que ce qu'on a éprouvé il y a 20 ans, finalement, on continue de l'éprouver de manière différente.
Avec un autre regard, peut-être aussi.
Avec un autre regard, évidemment, mais avec cette permanence des sentiments et des émotions qui, moi, m'importent le plus, en fait.
Justement, vous parlez d'émotions, ça a dû être émouvant de relire ces mots-là des années après.
Oui, et en même temps, ces personnages-là, ils faisaient partie de ma vie et ils m'avaient jamais quitté. Donc, il n'y a pas eu de rupture à proprement parler. C'est simplement cette surprise de se dire que 20 ans après tout ce qui peut se passer dans une vie, dans une génération, on est toujours la même personne, en fait.
Pascal, votre trajectoire sur l'écriture. Ça a commencé, donc, on l'a vu dans votre bio, à 10 ans avec les poèmes.
Oui, c'était des petits poèmes d'enfants, hein, tout simplement. Après, j'ai quand même arrêté. Après, j'ai continué, j'ai repris l'écriture plutôt vers les années fin collège, lycée, où là, j'ai vraiment beaucoup écrit. Et j'ai fait quand même beaucoup d'infidélité à l'écriture avec les loisirs créatifs, hein, j'avoue, mais l'écriture...
Je crois que c'est un point que vous avez en commun.
Mais elle est toujours là, elle est prégnante, c'est des feuilles volantes, c'est des petites notes sur le téléphone, sur une impression, un regard. Donc j'écris régulièrement. Après, c'est vrai que la construction d'un roman est différente de la poésie. Donc, ce qui m'a vraiment amenée vers le roman, ce sont les pensées d'hier et d'aujourd'hui qui sont des pensées poétiques, qui sont intégrées d'ailleurs dans ce roman. Donc j'écris autant de la poésie, ça peut être aussi des chroniques humoristiques, de Miss Dinguette, de Margoulette Village, pour me défouler d'une journée ou de quelque chose que j'ai pu voir d'incongru dans la journée, et ça peut partir dans le rire à tout moment. Voilà.
Et l'écriture du roman, ça a été plus construit, justement, parce que là, vous parlez de mots, d'idées, de sentiments que vous jetez comme ça, mais pour faire un bouquin de plus de 150 pages, il faut quand même, c'est presque 200, il faut quand même plus le construire, peut-être, non plus. Alors, il y a vraiment, là, un travail d'écriture plus large.
Oui, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé un projet de roman un peu avorté, qui est toujours dans les placards, hein. Et puis j'ai dû faire un choix à un moment donné professionnel, et puis j'ai dit bon ben tu peux pas te consacrer à l'écriture, tu vas travailler sur des concours, etc. Et j'aurais mieux fait de continuer à écrire peut-être, hein, parce que je l'avais raté à ce moment-là. Et 2 ans après, je sais pas, c'est mon fils avec son grand-père qui m'a inspirée. Papy va très bien, je vous rassure. qui m'a inspirée.
On va comprendre pourquoi après.
On comprendra pourquoi après.
Nous rassurer sur le sort de papy.
Voilà, c'est ça. j'ai vraiment commencé à écrire l'été. Voilà, suite à une petite phrase, et tout est parti de là. Et je me suis dit, bon, je sais pas ce que ça va donner, mais ça m'a vraiment donné envie d'écrire et de faire quelque chose de léger, qui fait du bien, tout en abordant des sujets quand même qui sont, enfin, qu'on peut juger un peu lourds, hein, mais je voulais les aborder parce que ça fait partie de la vie, et on peut aborder les choses négatives et un peu difficiles dans le rire, dans l'humour, dans tout ce domaine-là.
D'ailleurs, c'est quelque chose qui vous réunit, parce que j'ai lu
dans la poésie.
Très rapidement, l'un après l'autre. C'est vrai qu'il y a le même style, quand même léger, pour parler de quelque chose de grave, parce que vos deux sujets sont graves.
Oui.
Que ça soit le vôtre, Pascal, avec le cœur et toutes les maladies de cœur, ou vous avec l'accompagnement de fin de vie qui est vraiment... C'est pas deux sujets drôles, or votre style, parce que vous en avez vraiment tous les deux, il est tellement léger et positif, quelque chose qui fait passer vraiment très très bien les messages de choses beaucoup plus lourdes. Votre style, il est assez semblable avec des presque parlés. Hein, c'est, voilà, c'est, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous le voyez comme ça. Mais un style léger, parlé, et beaucoup d'humour aussi. Dans les deux livres, il y a beaucoup d'humour.
Et moi, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'était le côté positif de la vie, quoi. Enfin, de ne pas être... Après, c'est un parti pris que... Voilà, je souhaitais qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture sur ce livre. Et d'ailleurs, il y a deux styles d'écriture, hein. Il y a une écriture poétique et il y a une écriture beaucoup plus langage quotidien, parlé, qui peut déranger, mais j'ai vraiment souhaité en faire un parti pris pour garder une forme de fraîcheur aussi, et que chacun puisse trouver son niveau de lecture.
Ça, c'est la fraîcheur du premier roman, c'est important encore de pas...
Oui, voilà. Hein, ouais.
On parlait de l'écriture et de votre cheminement d'écriture. Est-ce qu'il y a des... L'une et l'autre, vous pouvez changer dessus. Est-ce qu'il y a des grands écrivains ou des petits, ou des écrivains qui vous ont touché particulièrement? Je crois que Véronique, vous aimez beaucoup Daniel Pénac.
Oui, tout à fait, oui. Daniel Pénac, bon, Boris Vian également, qui m'a beaucoup inspiré aussi, ne serait-ce que pour le prénom de mon héros, Colin. Mais j'aime beaucoup les romans assez directs aussi. J'aime beaucoup, et je partage ça avec Pascal certainement, cette sensation qu'on peut dire des choses graves en étant léger, avoir de l'humour, être décalé, créer une espèce de monde parallèle où finalement les gens trouvent un peu ce qu'ils veulent, ils picorent, et puis ça peut être quelque chose de... avec une résonance assez grave, mais en même temps, on peut rire de tout. Ouais, je crois que l'humour et la politesse du désespoir, hein, je crois que c'était...
Oui, c'est très bien dit.
C'est vrai que Colin, c'est le héros de...
De l'éponge
Non. Le Colin de Vian.
Oui, hein, c'est fait l'écume des jours.
Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il y a comme ça, dans l'écume des jours, ce côté de parler de choses très graves, avec une légèreté, parce que quand même, votre roman est beaucoup plus grave que celui de Pascal. Il y a vraiment, je ne vais pas dévoiler la fin et surtout pas enlever ce plaisir-là à nos lecteurs, mais c'est vrai qu'il y a une énorme gravité et un choix ultime qui est beaucoup plus dur dans le vôtre que dans celui de Pascal.
Voilà. Oui, mais ce choix est beau.
Le choix est très 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 beau. Pascal, des auteurs aussi qui vous ont marqué des...
Alors moi, un des derniers là, enfin, j'en lis beaucoup puisque, bon, comme j'anime les cafés littéraires également... qui m'a beaucoup marqué. Alors moi j'aime beaucoup Daniel Pénac aussi, hein. J'ai lu Le Journal d'un corps que j'ai trouvé absolument émouvant. J'aime beaucoup aussi l'univers de Mathias Malzieu.
Dionysos, c'est pour ça.
Oui, c'est Dionysos, oui. Excusez-moi, je bafouille. Et notamment, enfin bon, je les ai tous lus, j'ai tous les bouquins, et c'est vraiment un univers onirique qui parle aussi de choses graves. Hein. Là, son dernier, enfin un de ses derniers, puisqu'il y en a un autre qui va sortir, c'était le journal d'un vampire en pyjama qui parle quand même de maladie et qui est juste, enfin magnifique, quoi. Hein, à lire, hein, Véro.
D'accord.
Donc ouais, il y a tellement d'auteurs. Bon, là, un que j'avais lu, c'était Julien Brun aussi, qui m'avait beaucoup ému. J'aime beaucoup Carlos Ruiz Zafón.
Nous l'avons suivi, hein, moi, oui. Julien, pour le reprendre.
Voilà. Enfin, bon, il y a une multitude d'auteurs où je prends du plaisir à lire. Et je pense que dans chaque livre, on peut trouver. Chaque livre a son lecteur, de toute façon. Et dans chaque livre, on peut se nourrir. De quelque chose, enfin, on peut trouver
des choses qui nous touchent,
et qui nous interpellent et qui nous font grandir,
Qui nous nourrissent, ouais.
Qui nous nourrissent, ouais.
Dans la question piège, le livre que vous emmèneriez sur une île déserte, c'est lequel? L'une et l'autre.
Voilà, j'aurais souvent dit 100 ans de solitude, ouais. Mais je sais pas, il y en a tellement, effectivement.
C'est la malle, quoi. Faut ramener la cantine.
Hein, je pense qu'il faut ramener la cantine, oui. Voilà.
Pascal, non, un titre vraiment.
Oh là là. Oh, ça, c'est vraiment une question. Piège.
Puis en plus, je pense qu'il évolue au fil du temps.
Oui.
On n'a pas le même à 20 ans qu'à 30 ans. Enfin, moi, je sais que j'aurais dit bêtement à 25 ans Belle du Seigneur. Or, aujourd'hui, j'ai relu Belle du Seigneur. Et si c'est toujours aussi formidable, la vision qu'il a de la femme dedans, je ne le reçois pas du tout à 60 ans, pareillement qu'à 25.
Voilà, ouais, c'est comme Kundera. C'est pareil. J'avais pas réussi jeune à achever le livre. Et quand je l'ai relu plus tard, j'ai pris un plaisir immense. C'est vraiment un livre que j'ai lu à une période de ma vie qui m'a beaucoup interpellée. Du coup, j'en ai lu d'autres.
On va marquer une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour rentrer plus dans le sujet de vos romans.
Shadows and light conspiring, cover.
Eh bien, nous retrouvons après cette pause musicale nos deux invités, Pascal Battistelli pour son roman Rêve arythmique et Véronique Gaglione pour son roman L'éponge. Véronique, votre héros dans L'éponge s'appelle Colin Le Tendre, donc avec un clin d'œil
à Boris Vian.
Qui est ce Colin Le Tendre, ce jeune homme que nous rencontrons à 25 ans, que j'ai trouvé un peu, sinon fat, pas du tout, mais un peu creux à 25 ans. Donc il vient de se faire larguer par son amoureuse. Et le roman commence là-dessus. Donc j'aimerais vous entendre un petit peu plus sur qui est Colin Le Tendre. Voilà, pour vous.
Colin, j'ai vraiment voulu créer justement le héros ordinaire, l'anti-héros, le raté. Et je crois que là-dessus, au début, c'est vraiment l'image qu'on a de Colin. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire évoluer le personnage et que le lecteur se pose la question. Parce que ce personnage en creux, finalement, il peut être le bien ou le mal. On ne sait pas trop, en fait. Et à un moment, et le roman joue de ça avec des petits épisodes dans sa vie, où on sent que justement, il pourrait être capable du pire, pour être capable du meilleur. Et c'est l'évolution de la vie autour de lui, des personnages qui interfèrent avec lui, qui va le construire et qui va en faire ce qu'il est à la fin. Et effectivement, il pourrait être un ange, il pourrait être un esprit malsain, on ne sait pas. Et c'est ça qui est très déstabilisant et qui en fait peut créer même jusqu'au malaise, c'est qu'à un moment, on ne sait pas qui il est.
C'est un observateur. Il observe d'ailleurs une des scènes du roman, du début du roman, quand il voit ce vieux monsieur Firmin sur le banc donner des bonbons aux enfants des écoles, à la sortie des écoles. C'est vrai qu'il observe, on a l'impression qu'il observe, il observe même sa vie, il observe même sa compagne. Il est extrait du monde, il est là en spectateur et j'aimerais en lire un petit extrait du début. Merci, Dame Pascal. on apprend tout de suite qu'il est largué par son ami. Il y a une ou deux scènes et là, il trouve...
Oui, parce qu'il est largué par son ami, il perd son emploi. Voilà, c'est vraiment le raté.
Tout arrive en même temps. Et en suivant ce vieux monsieur qui vient donner des bonbons aux enfants des écoles, il rentre à l'hôpital et dans l'ascenseur de l'hôpital, il voit une petite annonce qui lui propose d'être gardien de nuit, qui propose un poste de gardien de nuit. Donc il postule et il va rencontrer le DRH de l'hôpital.
Voilà.
Vous êtes marié ? Vous avez des enfants peut-être ? Non, je préfère. Je préfère les célibataires, ils sont plus efficaces au travail. Vous m'intéressez, mon garçon, rappelez-moi votre nom. Une heure après avoir quitté le vieillard du 7e, après avoir dérapé au secrétariat avec la fichette prise dans l'ascenseur, je me trouve derrière ce bureau, au rez-de-chaussée de l'hôpital, avec une seule ambition, d'arriver à esquiver les relandailles de monsieur le directeur du personnel. Le Tendre, monsieur Colin Le Tendre, 25 ans, célibataire sans enfant, efficace au travail. Ma réponse fuse, carrée, toute militaire, sans que j'aie le temps d'en arrondir les mots. Très bien. Le poste qui vient de se libérer est un poste de surveillant de nuit. On vous expliquera le boulot. Pas facile, vous verrez. Je compte sur vous pour être à la hauteur. Je vous propose un contrat scalp. Durée initiale de 6 mois, mais résiliable à tout instant si vous ne faites pas l'affaire, bien entendu. Pardon ? Je me sens un peu distancée par le rythme de la conversation. Vous avez parlé de quel type de travail ? De quel type de contrat ? Scalp ? Oui, le contrat scalp est la dernière foutaise du gouvernement. C'est le salaire calculé à la limite du possible. C'est la rémunération la plus basse prévue par la loi. Une partie peut être versée en tickets restaurants. Ça permet d'être sous la tranche du salami, le salaire largement minimal. Le salami, non mais je plaisante, le salami, c'est moi qui viens de l'inventer. C'est bon ça, hein, le salami, vous trouvez pas ? C'est pas mal du tout. Et il éclate de rire. C'est une manière de dire que de toute façon, ça va pas faire lourd. Ça semble décidément l'amuser que je ne sache pas que j'aurai besoin de vous dès ce soir. Voilà, ça c'est pour vous montrer le ton vif, drôle de l'écriture de Véronique. Ce personnage va mûrir, il va aller de rencontre en rencontre, c'est une addition de rencontres qui va le faire grandir, jusqu'au moment où il va rencontrer celle qui va changer... Sinon sa vie, mais enfin, bon, beaucoup de choses dans sa vie en tout cas.
Donc, qui va donner un sens à sa vie.
C'est Lou. Vous pouvez nous en parler un peu de Lou ?
Lou est une jeune femme, une jeune fille, en fait. Au début, on ne sait pas trop quel âge elle a, qui est hospitalisée donc, dans un des services dont s'occupe notre ami Colin. Et tout de suite, on sent qu'il va se passer quelque chose entre ces deux-là. On ne sait pas quoi, mais on sent que l'un et l'autre vont s'apporter beaucoup et qu'effectivement, leur vie à tous les deux va changer à partir de là.
Elle est très attendrissante, elle a 17 ans. Quand elle arrive là, on comprend tout de suite qu'il y a un gros problème de santé.
Oui.
Et qu'il va en prendre une large charge sur ses épaules de ses problèmes de santé, qui a une complicité, alors pas du tout amoureuse, hein, tout à fait prude entre eux. Bon, j'en dirai pas trop parce que c'est ce qui amène aussi à la fin du roman, cette amitié entre Lou et Colin, mais qui est d'une tendresse absolue. C'est tout d'un coup, en définitive, Colin, il a jamais vu la tendresse qu'il a apportée lui, parce que, oui, je l'ai pas dit, mais il y a quelque chose de très fort, c'est que Colin, c'est une oreille, c'est une écoute. Il a cette capacité énorme d'empathie qui fait que les gens lui parlent très facilement, s'ouvrent et qu'il ne leur répond pas. Pareil, il est un observateur de la vie des gens. Enfin, je ne sais pas si je le ressens bien.
Oui, mais l'éponge, clairement, c'est lui. Hein. Mm-hmm. C'est cette, lui qui se prend juste, qui croit que c'est un peu un don qu'il a reçu. Quand je dis qu'on ne sait pas s'il est le bien ou le mal, lui, il se prend un petit peu pour, au début pour... presque pour un envoyé de Dieu, parce qu'il est capable, il lui semble, d'éponger toute la souffrance du monde. Enfin, c'est ce qu'il croit. Et puis, on va évidemment s'apercevoir que ce don a ses limites et que ce personnage, en apparence capable d'endurer tout ça, finalement, il a ses limites aussi. Et lui aussi, il est fragile. Lui aussi, il va se briser sur toutes ces souffrances-là.
Et c'est d'ailleurs Lou qui... c'est avec Lou que je trouve qu'il passe d'observateur, dans toute la première partie du roman, à acteur, puisque c'est oui. elle qui va le pousser à agir vraiment sur sa vie. On va juste lire les quelques mots de l'arrivée de Lou dans le roman. La sonnette des toilettes ressemble à s'y méprendre à une chasse d'eau. Lorsque la 840 a clignoté sur le tableau noir... J'ai pressenti qu'il devait encore s'agir d'un de ces distraits qui croient évacuer leurs besoins en pressant sur la poire de l'alarme. Il était 6h du matin, l'heure à laquelle ceux qui m'ont appelé toute la nuit sont enfin engloutis dans leur drap blanc. L'heure à laquelle ceux qui ont bien dormi ressentent les premières urgences de régime diurétique. J'étais sûre de trouver le malade devant son lavabo, la savonnette encore au creux de la main, l'œil hagard. Il me fixerait avec surprise avant de réaliser son erreur et de se confondre en excuses. Je connaissais déjà le scénario. Elle était si belle que je faillis refermer la porte 840 sans rien dire. Mais elle m'avait vue. Elle me transperça d'un regard métallique derrière le rideau noir de ses cheveux mouillés. La salle de bain était encore toute embuée et la vision de cette peau fraîche, de ses grands yeux expressifs, était presque dérangeante dans mon univers de corps malade. J'en oubliais la sonnette, la poire, l'alarme, tout. C'était à moi de me confondre en excuses, j'avais dû me tromper de porte, j'aurais dû me tromper d'endroit, cette fille n'avait rien à faire ici. Voilà, on comprend là que tout d'un coup, c'est cet observateur passif de toute sa vie va vraiment se transformer avec cette rencontre. Excusez-moi, mais c'est vraiment un très beau texte et voilà, je suis dans le relisant.
C'est à la limite du coup de foudre là, en fait. Hein. Ouais. C'est vrai que après, avec la différence d'âge et tout ce qui s'installe entre eux, on comprend que cette histoire d'amour n'est pas possible. Mais c'est la frontière très ténue entre l'amour, l'amitié, la passion, la compassion, toutes les émotions qu'on peut ressentir.
Surtout que ça va l'obliger à avoir une autre vision de sa vie de couple, de tout ce qu'il avait enfoui, observé, où il se sentait passif. Là, tout d'un coup, ça va l'amener vers d'autres réflexions. Pascal, Georges Pinson, lui, on le rencontre à 6 ans. À 6 ans, je vais vous lire les premières lignes du roman, comme ça on voit tout de suite. Il se présente lui-même, Pinson, vous n'avez pas besoin de le présenter là, quasiment.
Voilà.
Je m'appelle Georges Pinson, j'ai 6 ans et demi. Aujourd'hui, j'ai mal à la gorge. La tristesse y est coincée et elle ne veut plus sortir, et me blesse lentement. Mon papy avait une pile magique dans son cœur. Ça lui donnait un style, et surtout, ça lui donnait du cœur. Il m'offrait toujours mes bonbons préférés. Un jour, la pile s'est arrêtée et papy s'est endormi pour toujours. comme la pile. J'ai bien proposé de la changer, mais les grands m'ont dit que ça ne servait à rien et que ça ne changerait pas les choses. Alors aujourd'hui, je suis debout devant cette grande boîte. Je la regarde. Ils ont mis papy devant et pour que ce soit joli, ils l'ont décoré avec des fleurs. Mais je vois bien que tout le monde est triste quand même. Ces quelques lignes, ce portrait, enfin c'est plus qu'un portrait, c'est le début, la fondation de ce Georges Pinson, puisque toute sa vie va s'orienter justement sur cette fameuse pile.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce drame de perdre son grand-père, ça va finalement être son chemin de vie. Et donc il va avoir une obsession pour la vie, finalement, et pour les piles, et de voir qu'est-ce qui peut faire qu'un être humain puisse vivre plus longtemps.
Et alors longtemps, il va hésiter entre soit développer les piles, soit devenir chirurgien. C'est un choix qu'il fera un petit peu après, mais il ne sait pas bien au début ce qu'il veut faire de son métier.
Non, il ne sait pas très bien, et puis il ne lâche pas les deux, finalement. Il va quand même faire des études de médecine, mais à côté de ça, il bidouille dans le garage.
D'ailleurs, comme Colin se construit avec toutes ses rencontres tout en étant observateur, lui, il choisit un peu, enfin, il va vers des rencontres qui vont l'aider vers cette quête.
Oui, c'est ça.
Hein, tous ses amis, notamment Aziz, enfin, toutes ses rencontres sont faites pour aller vers...
Oui, en fait, il fonctionne par affinité, comme peuvent faire nos gamins ou comme nous, on a pu faire quand on était jeunes. Et c'est-à-dire que, cette personne a les mêmes affinités que moi. Et il est... En fait, c'est un personnage qui est un peu dans sa bulle, quoi. On peut dire qu'il est dans sa bulle de création de vie, même si le départ, c'est la mort. Mais bon, la mort fait partie de la vie, la vie fait partie de la mort. Enfin, c'est un tout. Et il l'accepte. Hein, il y a des passages où, au début, c'est un peu difficile pour son état d'esprit d'enfant, en se disant, c'est pas possible, il doit y avoir des solutions pour parler avec papy. Il agace un peu ses parents, ce qui pose des questions sans arrêt sur les piles. Il y a des côtés un peu rigolos. Hein.
Mais sans tout dévoiler, il va se construire de toute façon.
Il va se construire au fil
avec,
du temps.
Avec ce rapport à la mort.
Avec ce rapport à la mort, mais sur un chemin de vie, en fait. Voilà. Et il va rencontrer plusieurs personnages. Hein. Donc, il y a Olga, il y a Aziz, il y a...
Il y a surtout Olga, quand même.
Oui, il y a surtout Olga. Voilà.
Il y a beaucoup Olga.
Il y a aussi Meiko.
Il y a Olga jusqu'à ce qu'il y ait Meiko.
Voilà.
Et on n'en dit pas plus parce que c'est le personnage Meiko qui est quand même aussi le point pivotant du roman.
La petite intrigue.
Absolument. Là, je voudrais lire un moment justement où. Puisque c'est toute sa vie entre 6 ans et moi je dirais une trentaine d'années.
Oui,
on le quitte
c'est
à la
ça,
fin, une trentaine d'années.
Ouais.
Le temps file si vite que les rides de papa et de maman sont un livre ouvert sur leur vie, leurs émotions intérieures, leurs blessures silencieuses. Quand je suis à la maison, certains week-ends, je les observe, admiratifs de leur petit bonheur quotidien, de leurs gestes accompagnés parfois de chamailleries qui ne sont en somme que les signes maladroits d'une tendresse sur laquelle le temps n'a aucune prise. Depuis que nous sommes à la fac à Montpellier, les occasions de se voir avec Olga se font rares. Désormais, nous ne nous voyons qu'occasionnellement. Elle dans ses études, moi dans les miennes. Elle a ce petit studio à proximité de son école d'infirmière et suit des cours de psychologie en candidat libre à la fac de lettres. Elle veut partir faire un peu d'humanitaire. Pourtant, je trouve qu'elle en a déjà assez avec ses copines que je trouve un tantinet déséquilibré, voire agité du bocal. C'est toute une chronique de sa vie,
oui.
En définitive, jusqu'au moment où tout ce qui a mené sa vie vis-à-vis de la pile et vis-à-vis du cœur, il va devoir le poser sur quelqu'un qu'il aime.
Oui, c'est, hein, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne va pas là, on lui donne la vie et lui va redonner la vie derrière.
Et toute sa quête, toute sa vie, c'est pour redonner la vie, comme dans votre livre, Véronique, où il va donner aussi quelque chose de sa vie,
se rejoint
énormément.
Oui.
Et c'est sur ces mots de réunion et de communion, puisque les deux romans se terminent vers le don de l'autre. Et c'est sur ces quelques mots que nous nous quittons. Merci beaucoup Pascal d'être venu partager ce moment à Tapuscrit. Merci beaucoup Véronique. Je répète que vos deux livres se trouvent aux éditions Tapuscrit, 7 rue Raoult, à Montpellier. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir et merci.
Merci.